J'aimerais vous partager ce soir une réflexion sur les refuges. Les refuges, c'est lorsque je prends refuge, d'une certaine manière, c'est un espace de confiance. Je sais que je peux me reposer le moi sur une sorte de contenant. Et c'est aussi un lâcher-prise d'une confiance en moi. Est-ce que je peux avoir confiance en moi? Oui, parce que je prends refuge. Mais en moi, Anne-Michel, c'est Ram Dass qui était un enseignant connu en Californie, qui était un bel homme, très charismatique. Et puis, il a eu un AVC et il est devenu totalement paraplégique. Et au début, c'était très, très dur. Sa femme l'a vu tomber dans une profonde... Vraiment, il avait énormément de difficultés. Et puis, parce qu'on ne peut pas avoir confiance en... Je ne peux pas avoir confiance en moi. Moi, il fait n'importe quoi. Et puis, peu à peu... Il a repris son refuge dans autre chose. Et j'ai pas retrouvé la parole, j'aurais voulu vous la lire, mais dans son bouquin, il y a un passage très beau où il dit combien cette maladie finalement lui a appris beaucoup, beaucoup, et que finalement, cette maladie, c'est peut-être juste une lourde grâce. Confiance en moi, difficile. Moi toute seule. Il y a 40 ans, quand je regarde comment j'étais il y a 40 ans, est-ce que j'avais confiance en moi? J'avais l'impression d'avoir confiance en moi parce que l'ignorance nous protège. Donc on a plein d'enjeux interrelationnels, on est tout tendu, très souvent tendu, mais on ne le voit pas vraiment, donc tout va bien. Mais en fait, j'étais beaucoup entre l'arrogance et la complexité. Elle a pas la complexité, le complexe. Et est-ce que je peux avoir confiance en l'autre? L'autre peut nous réserver beaucoup de surprises. C'est Chouraki qui disait en parlant de sa femme, à proprement parler, je ne t'aime pas, j'aime en toi. Parce que si je t'aimais toi, tu peux mourir. Alors que si j'aime en toi l'amour, il est éternel, au-delà de la mort. Nous ne pouvons pas vraiment avoir confiance en l'autre en tant que tel. Il peut changer, il peut être imprévisible, on ne sait pas, c'est du karma. Quelquefois le karma est incroyable et il peut mourir. Et ça aussi, c'est. Il y a cette jolie histoire d'une personne, d'une femme qui a perdu son seul enfant qui s'est noyé dans une rivière et puis elle va vers le Bouddha. Et puis, elle le supplie de lui rendre son enfant. Et le Bouddha lui dit, je te rendrai ton enfant si tu peux trouver une maison, si tu vas chercher, maintenant je ne sais plus, je crois, 3 graines de moutarde dans une maison qui n'a pas connu le deuil. Et alors, elle va dans le village, elle demande dans toutes les maisons, et personne, ne peut lui donner une graine de moutarde. Tout le monde a connu le deuil. Alors elle revient éveillée. Elle a compris la nature éphémère de l'existence. Est-ce que nous pouvons avoir confiance dans le monde, hein, dans la Suisse, dans notre système monétaire, dans le temps qu'il fait, dans nos possessions. Pour le moment, nous les avons, nos possessions. Mais regardez en Syrie, ça va vite, tout d'un coup. Qui l'aurait pensé il y a 10 ans? Le monde conditionné n'est pas un refuge. Les refuges, c'est quelque chose que nous pouvons dire. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha. Et j'aimerais un petit peu aborder cette prise de refuge dans le sens de... Après, vous en faites ce que vous voulez, mais une manière personnelle de le voir comme point de départ pour votre propre réflexion. Quand on dit « je prends refuge dans le Bouddha » ou les chrétiens disent « je prends refuge dans le Christ en moi », le Bouddha ou le Christ, il ne faut pas oublier une chose, c'est que de leur temps, ils étaient absolument inconnus. Ils sont devenus connus, en tout cas 200 ans après. Il y a Frédéric Lenoir qui a écrit un bouquin très intéressant de Jésus au Christ, ou comment Jésus est devenu chrétien. Et le Bouddha, c'est pareil, c'était une petite communauté dans les forêts près de Magala, et il avait quelques disciples, une jolie sangha, hein, comme Mudita, une jolie sangha, mais c'était pas un être mondialement connu. Mais étant donné que les gens ont besoin d'images, nous créons une image. Mais prendre refuge dans le Bouddha, même si là il y a un Bouddha, voilà, Bouddha, vous pouvez prendre refuge dans Bouddha. Je me souviendrai, Surya Das, il avait, au début de sa retraite, il avait pris le Bouddha, il avait dit ce Bouddha, puis il l'avait pas vraiment flanqué par la fenêtre. Mais pour dire que c'est rien. Si ça m'est utile, ok, je fais quelque chose de ce Bouddha. Mais quand je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans ce potentiel humain d'éveil, qui est déjà à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui est encore atrophié. Et bien sûr, je prends refuge aussi d'une certaine manière dans ce que le Bouddha représente. Ce n'est pas seulement cette sagesse à l'intérieur, mais c'est la conscience universelle. Au fond, l'être humain est un reflet du cosmos. Je ne veux pas aller dans cette direction-là maintenant, mais je prends refuge en même temps dans le Bouddha en moi et dans la conscience, dans l'infinité, l'infinité, le tout, le un. Et c'est très utile quand nous travaillons la méditation, si nous avons des moments de dévotion, de vraiment les vivre. La dévotion est quelque chose de beau. Au niveau de ce développement de la confiance, de prendre refuge dans le Bouddha en regardant le Bouddha, comme je peux prendre refuge dans une... représentation de quelque chose, ça aide simplement. Je sais que c'est une création, mais c'est une création utile. Ça peut être une création utile. Et je demande, la prière, ça n'est pas quelque chose de... La prière d'intercession, je demande. Si c'est conscient, si je ne crois pas qu'il y a moi et l'autre qui va me donner, mais que je le fais dans ce besoin ici et maintenant, je peux vraiment l'employer comme outil de transformation. J'ai fait ça pendant longtemps. Pendant 1 année et demie, j'avais mon petit hôtel. Tous les matins, je m'asseyais, je priais Bouddha, je faisais mes chanting, tout ça. Je le dis maintenant avec. C'est comme si dans ma voix, il y avait moins de respect, mais ce n'est pas du tout le cas. C'était un moment très beau. Maintenant, c'est plus ce que je fais. Mais dans les monastères, ça porte toutes ces, tous ces chants dévotionnels qui simplement nous rappellent au fond notre vulnérabilité et cette prise de refuge dans ce qui est plus grand que moi, même si c'est en moi. Et ces émotions spirituelles, elles sont importantes. Quand nous avons dans une retraite une expérience qui émotionnellement nous touche beaucoup, observez bien, souvent il y a vraiment un peu de deux émotions mixtes. C'est d'une part je pleure sur moi parce que je vois l'inaccompli, et je pleure d'émotions spirituelles parce que je vois. Et c'est bon, c'est tellement bon de voir. Un des lâcher-prise dont le Bouddha parle, qui est important dans le chemin, c'est le lâcher-prise des rites et des rituels. Et aujourd'hui, on n'en a plus tellement de ces rites et de ces rituels. Mais l'esprit s'accroche à la forme. L'esprit s'enthousiasme pour un maître, ou bien pour un bouquin, ou pour une voix. Hein? C'est beau, mais c'est quelque chose à terme à lâcher. C'est ça les rites et les rituels aujourd'hui. C'est ces enthousiasmes. Ah, oh, mais il est super, va faire une retraite avec machin. J'ai beaucoup fait ça quand j'étais jeune, cette comparaison entre. Mais je prends refuge dans le Bouddha, c'est vraiment ce lâcher prise du pouvoir que je donne à l'autre. Nous sommes tous sur le chemin. Et si je veux donner du pouvoir à l'autre, j'ai le droit, si ça me fait du bien. Mais voir que c'est transitoire et que ça change. Et que ce que je suis sûre qui est vrai aujourd'hui, ça n'était pas il y a quelque temps et ça ne le sera pas dans quelque temps. Ça change. Quand je prends refuge dans le Bouddha, on peut dire que je prends refuge dans Anatta. Il y a ces trois caractéristiques: Dukkha Anicca, le fait que la vie est souffrance. La vie est souffrance parce qu'elle est impermanente. Elle est souffrance parce que je peux perdre l'autre, parce que je suis parfois séparée de ce que j'aime ou liée à ce que je n'aime pas. Le Bouddha est clair là-dedans. Parce que nous allons tous expérimenter la vieillesse et la mort. La maladie, la vieillesse et la mort. Dukkha. C'est le temps. Dukkha Anicca, c'est le monde. Et Anatta, c'est ce qui est au-delà du monde. C'est ce qui fait que je peux contempler le monde. Que je peux voir avec un regard bienveillant, mais pas identifié. Je peux regarder moi-même et les autres dans cette. Comme on regarde jouer des enfants. Et quand nous prenons refuge, c'est important de savoir que si je peux prendre refuge, c'est que je fais partie de ce monde conditionné. Ça n'est pas un monde à rejeter du tout. J'y suis pleinement. Ces deux mondes fonctionnent ensemble. Le monde de l'au-delà enrichit le monde conditionné et le monde conditionné révèle la réalité ultime. Et ce refuge, cette prise de refuge, c'est quelque chose que je peux faire souvent et de manière répétitive pour ancrer la concentration. Simplement pour ça. Il n'y a pas besoin d'en faire un truc spirituel, mystique. Le deuxième refuge, c'est le refuge dans le dharma. Le dharma, c'est le chemin. Alors, il y a le chemin à huit voies. Le chemin à huit voies, c'est ces trois aspects qui fonctionnent l'un avec l'autre, dont j'ai déjà parlé au début de la retraite. La compréhension sage. Je commence à comprendre le monde autrement que de manière identifiée, et séparée, et personnelle. Je comprends que chaque pensée n'est valable que si elle est au service de la libération. C'est le premier aspect, la pensée, l'intention juste et la compréhension juste. C'est ce qu'on appelle panya, la sagesse. Le deuxième aspect, c'est l'éthique, je vais en parler tout à l'heure. Et puis le chemin, en tout cas dans une retraite, c'est beaucoup la pleine conscience. Pourquoi est-ce que le chemin se creuse? C'est parce que je travaille instant après instant cette pleine conscience. Et c'est les pas qui font le chemin. C'est parce que je marche que le chemin se crée. Cette pleine conscience, elle est simple, mais elle est extrêmement difficile. Parce que c'est tout ce travail sur le moi qui apprend à lâcher. Et c'est le point de départ du chemin. Je ne peux rien commencer sans voir et accepter. Je connais l'esprit, j'apprends à connaître l'esprit ici et maintenant. Et puis, lorsque j'ai appris à incarner cette pleine conscience, c'est-à-dire lorsque j'ai libéré l'objet des commentaires, première chose. Nous sommes sans arrêt en train de faire des commentaires au sujet de tout ce qui s'éveille dans la conscience. Alors, l'outil de la pleine conscience devient vraiment efficace. C'est-à-dire que je peux travailler avec l'attention pure. Lorsque nous disons « il faut laisser être l'expérience », est-ce que je laisse être l'expérience ou est-ce que je laisse être ce que j'en pense ? Laisser être l'expérience, c'est être libre des commentaires. Et la concentration, c'est une compétence de l'esprit qui a une puissance intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une force. Lorsque l'esprit est concentré, il a le choix. Il a le choix de ne se mettre que sur les sons. Quelqu'un qui bouge, il y a le son de ma voix. Faites-le, il y a quoi d'autre? Les sons. nous sont purs. Il n'y a pas besoin de la représentation. Peut-être la représentation vient, mais je la lâche. Je n'y donne aucune priorité. Quelqu'un qui bouge la jambe, c'est un son. Ce que je dis là, c'est un son. La voiture qui passe sur la route, un son. Ça, c'est l'attention pure. Si je veux mettre l'attention sur les pensées, c'est exactement comme les sons. Le corps est là. Ben, juste maintenant, il n'y a pas de pensée, pour moi. Hein. Mais dans l'expérience de l'assise, quelquefois, voilà, il y a des pensées qui viennent, comme il y a des sons. Et l'histoire que la pensée raconte n'a aucune importance, mais 0,0. C'est une pensée, comme il y a un son qui vient. Ok, pensée. Ou vous pouvez vous mettre sur l'espace et le silence. Il y a comme un son, une vibration. Ou vous pouvez décider d'aller que sur le chakra du milieu du ventre. Pourquoi pas? Ou rien que sur la vue, le sens de la vue. Les formes, les couleurs, du gris, du bleu, du rouge, du blanc. Donc, la concentration, ça n'est pas le calme. Avoir un calme, c'est pouvoir s'ancrer ici et maintenant. Le pouvoir de la concentration, c'est quelque chose de plus ludique. Je peux aller où je veux et je peux rester longtemps là où je veux. Donc il y a un choix. L'esprit commence à devenir vraiment un outil performant. Et la pleine conscience a deux fonctions. C'est d'une part pouvoir rester avec l'objet, voir de plus en plus de détails dans le sens vraiment du ici et maintenant. Le son, par exemple, je me souviens dans une retraite, il y avait le bruit de la chenot, l'eau qui tombait de la chenot. Ça faisait un gros bruit, quoi. Et puis tout d'un coup, l'oreille s'est ouverte et ça faisait, c'était beau. Ça faisait plein de petits sons, toute la vibration sonore était comme décomposée. C'était une merveille. L'objet de conscience libéré des représentations perd la projection personnelle. Et c'est vrai aussi avec les émotions. Et quand je peux rester dans l'attention pure par rapport à la peur, par exemple, c'est une vraie merveille. C'est beau. Parce qu'il n'y a plus d'identification. Et le processus de purification à ce moment-là est rapide. Et l'autre fonction, c'est la qualité d'objectivité de la pleine conscience. Elle a cette force pour rester sur l'objet et pour le voir de plus en plus en détail, le laisser être. Et elle a cette qualité d'objectivité qui fait que n'importe quel objet qui vient est accueilli avec le même intérêt. Il n'y a plus ce choix perpétuel. Ah ça, ouais, ok, je veux bien. Ça me paraît bon, agréable, d'accord. Ou si sinon, alors celui-là, je ne l'aime pas. Bon, tchouk. Au compost. Il y a ces qualités de non-préférence qui s'installent. Et l'expérience de la pleine conscience, je peux vraiment en faire l'expérience. C'est un ancrage dans le corps. Et chaque objet de conscience, il n'y a plus aucune manipulation et aucun contrôle. Il n'y a que comme un grand océan de conscience et des choses qui viennent. Un son, une pensée, la vue de quelqu'un, un mouvement. Alors bien sûr qu'on ne peut pas tout voir d'un coup. Pour tout voir d'un coup, il faut perdre le corps. Mais ce qui vient en priorité est ce que la conscience saisit. Et nous saisissons ça et ça passe. C'est ça et ça passe. C'est ça et ça passe. C'est ça et ça passe. Ben, ça va vite si je ne le saisis pas. Si je n'ai pas de préférence, les objets de conscience vont vite, même les pensées. Une pensée qui n'est pas retenue. Elle fait ploc ploc. C'est Joseph Goldstein qui dit: la pleine conscience est la racine du dharma. Elle est le corps de la pratique. Elle est la forteresse de l'esprit. Elle est l'aide pour que la sagesse soit porteuse d'éveil. La pleine conscience, c'est elle qui aide à la sagesse à se révéler. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose que nous devons absolument garder toujours. Le but, c'est une transformation du corps et l'acquisition d'une nouvelle spontanéité. Un refuge qui est incarné dans le corps. J'ai pas vrai, plus vraiment besoin de prendre refuge, il est. Et peut-être que ce qui... C'est marrant maintenant, ça me paraît plus vraiment comme ça, mais je vais quand même le dire. Parce que c'est quand même vrai, mais j'ai plus cette perception. C'est vrai. C'est marrant, hein? Quelque chose qui lâche, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, dans mon expérience, c'est vraiment... Au début, je ne savais pas à quel point, je ne connaissais pas la puissance de la pleine conscience. Et plus j'ai avancé dans ce chemin, plus je me suis rendu compte que c'était une force incroyable. Sati, c'est donc ce qui se souvient. Il s'agit de se souvenir d'abord. Quand je suis prise dans mes pensées, attends, souviens-toi, paf. C'est ce qui permet d'être à l'écoute, moment après moment, des objets de conscience, avec cette équanimité, cette non-préférence, qui fait qu'un son est exactement à la même hauteur, à la même valeur qu'une émotion ou qu'une pensée. Sati, c'est aussi ce qui équilibre tous les facteurs. C'est la pleine conscience qui a cette qualité de discernement, de dire, ok, là j'ai pris refuge, mais j'ai assez pris refuge. Ou bien, ok, là j'ai complètement ouvert le champ de conscience, prof, je sens que ça devient un petit peu moins clair, je fais nouveau un peu de concentration sur le souffle. La concentration sur le souffle, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre toujours. Début, fin de l'inspire, début, fin de l'expire. Quelque chose qui est, qui reste toujours. C'est là. Ou c'est aussi la pleine conscience et aussi la fonction qui retient l'esprit de faire n'importe quoi. Elle a une fonction de retenue. Quand j'en ai marre puis que j'ai pas envie d'aller marcher dehors, vas-y quand même. Et pour finir, lorsque nous avons éduqué l'esprit, lorsque nous l'avons formé, au moyen de cette pleine conscience, nous rendons compte que lorsque je suis en pleine conscience, c'est la manifestation même de la vérité. C'est aussi le point culminant dans l'exercice de la méditation. Parce que nous n'avons rien d'autre que l'instant. Et si l'instant n'a pas cette qualité de pleine conscience, il est mort d'une certaine manière. Il est perdu, il est comme perdu. C'est dans le cours au miracle que certains ont lu. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Est-ce que je suis là? Et si l'expérience de confusion vient, ou que l'expérience de justement du passé est là, la puissance de la pleine conscience peut être là avec. Et je peux très bien me voir raconter une histoire du passé, sans être prise du tout. C'est Ajahn Sumedho qui dit « Beaucoup de souffrances et de malheurs surviennent lorsque vous tenez pour vrai chaque pensée qui vous vient en tête. Ce ne sont pas les situations qui rendent malheureux. Elles peuvent vous causer de la douleur physique, sans plus. Ce sont vos pensées qui vous rendent malheureux, vos interprétations, les histoires que vous vous racontez. Les pensées que j'ai à présent me rendent malheureux. Cette prise de conscience rompt votre identification inconsciente à ces pensées. » Il faut le faire. Séparer le vécu, l'expérience de ces rajouts grossiers de commentaires que nous faisons sans cesse. Et puis, il y a la prise de refuge dans le ou la sangha, les autres. Il y a cette jolie, l'image de la croix est une très belle image. Nous nous ancrons dans la verticale, entre le ciel et la terre, dans l'universel. Mais nous ne sommes rien sans les autres. Nous avons besoin des autres. Les autres sont précieux. Alors, bien sûr, la sangha, c'est d'abord ces groupes spirituels qui portent notre effort, qui permettent à la sagesse de se développer parce qu'on écoute des enseignements, parce qu'on discute entre nous de sujets liés au dharma, parce que on donne du temps à ces partages, parce qu'on lit aussi, la sangha, c'est aussi tout ce que j'apprends dans mes lectures. Il y a beaucoup de gratitude à avoir pour ces groupes qui nous permettent de grandir. Et suivant les personnes, suivant les karmas, ce sont des groupes différents. Pour moi, je suis liée beaucoup à Ajahn Sumedho et à Jack Kornfield. C'est comme ça, c'est pas que je les vois souvent. Mais le lien karmique est très fort. Et ils font partie étonnamment tous les deux de cette tradition des moines de la forêt avec Ajahn Chah. J'ai pas choisi. Hein. Personne choisit. Mais on peut remarquer, on peut avoir la gratitude pour ces sanghas qui vraiment nourrissent. C'est une nourriture tellement précieuse. Mais la sangha, c'est aussi tous les autres. Et surtout en tant que laïcs, nous ne vivons pas dans un monastère. Donc nos sanghas, ce sont souvent nos familles, nos voisins, nos collègues, les personnes que nous côtoyons au quotidien. Et ces personnes nous enrichissent. Ils nous enrichissent parce qu'ils nous apportent à travers leur cœur, leur bonté, leurs soins, mais ils nous enrichissent aussi lorsqu'ils sont difficiles. La personne difficile me permet de grandir. Et de même que il n'y a aucun rejet à avoir par rapport à l'ombre à l'intérieur de nous-mêmes, la personne difficile, lorsque l'exercice de la méditation s'incarne mieux, prend une autre couleur. Ok, l'autre difficile implique de la souffrance, mais elle implique aussi une vigilance. Elle me réveille. Elle me réveille à quoi faire de ça? Et quand le refuge s'incarne dans le corps et l'esprit, c'est que nous avons travaillé le troisième aspect du chemin, qui est l'éthique, sila. Entre le karma, cette notion du karma qui fait que je ne veux pas créer de souffrance parce que je sais que ce sera des aspects à repurifier, et la sagesse qui fait que la générosité s'ouvre et le respect en moi, cette éthique devient beaucoup plus accessible. Le Bouddha a dit de pratiquer sila, c'est être dans le non-remords. Si j'ai vraiment fait des grosses choses vraiment négatives avant de venir en retraite, pouf, j'aurai beaucoup de pensées, hein? Il y aura beaucoup de pensées. Parce que tout ça a un lien. Et bien sûr, il y a la pratique du pardon. C'est très important de se libérer du remords, parce que le passé est le passé, nous ne pouvons pas le refaire. Mais nous pouvons soigner le présent. Et voir, ok, j'étais aveugle. Mais c'est pas parce que j'étais aveugle que j'ai besoin de continuer à l'être. Le dharma en tant que vérité, le dharma c'est aussi la vérité. Donc, ce qui est un, ce qui est non séparé, le dharma manifesté sur la terre, c'est la bonté du cœur. Et chacun d'entre nous en a de la bonté dans son cœur. Quelquefois, suivant les personnes, on ne voit que le côté négatif. Mais chacun en a. Tout est dharma. En fait, tout est dharma. Le dharma, ce n'est pas quelque chose. C'est la totalité du monde conditionné et ultime. C'est Mère Teresa qui dit, quand un homme qui aime sincèrement Dieu entre dans une taverne, la taverne devient sa salle de prière. Mais quand un ivrogne entre dans une taverne, elle devient sa taverne. L'attitude intérieure au niveau du refuge, si je prends vraiment refuge dans le Bouddha Dharma Sangha, l'attitude intérieure change et elle permet de changer l'extérieur. D'une certaine manière, l'expérience est toujours un tremplin vers la stabilité intérieure. Et ça fait, imaginez, vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, peut-être agressé ou abandonné, ou je prends refuge. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha. Avec ça, vous ne pouvez pas être agressif, vous ne pouvez pas être dépressif. vous ne pouvez pas perdre pied. Parce que d'une certaine manière, quand je dis je prends refuge, c'est que je lâche moi, je prends refuge. Et d'une certaine manière, c'est manifester la force de la pleine conscience. Je manifeste à ce moment-là la force de la pleine conscience parce que je me rappelle de le faire. Et le Bouddha a parlé de l'éthique par rapport à la parole juste. L'acte juste est le mode de vie juste. Et quand juste, c'est le mot samma en pali, ça veut dire qui unifie, qui est sage, qui est non séparé. Soigner la parole juste, c'est soigner la vérité, ou plutôt le non-mensonge, être authentique, être sincère, ne pas mentir, ne pas dissimuler, ne pas falsifier les choses pour mon avantage ou l'avantage d'un autre, dit le Bouddha. Donc il y a à cultiver cette sincérité et à abandonner le mensonge. Je le reprends parce que tout le monde va sortir dans nos vies et c'est important de s'en souvenir. La parole qui est porteuse de concorde, qui unifie les uns avec les autres, qui est porteuse de bonté, d'amitié, de non-jalousie. Et abandonner celle qui sépare pour une raison ou pour une autre, pour mon propre avantage ou l'avantage d'un autre. Et puis faire attention à une chose, c'est le ton de notre voix. Je le dis parce que j'ai beaucoup à faire à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup à faire, j'ai encore pas mal à faire. De vraiment soigner le ton de sa voix. Parce qu'on peut dire quelque chose de relativement gentil, mais avec un ton qui est tellement, qui dit tellement de choses, que finalement, l'autre se retrouve dans une situation paradoxale. Il écoute quoi ? Ce que je dis ou comment je le dis ? Et employer la parole juste pour plutôt nous rendre compte que la parole est précieuse. Et ne pas l'employer n'importe comment pour juste meubler le silence. C'est pas si facile d'être en silence avec quelqu'un. Quelquefois, nous avons tendance à parler juste parce que le silence fait peur. La parole juste, c'est ce respect du silence. Ne pas commérer. Employer la parole au service de ce qui est précieux pour nous. Et quelquefois, ça suffit de se rappeler d'être là. Je me rappelle juste d'être là et la parole est différente. Souvent, quand on emploie mal la parole, tout à coup, on se souvient. Le refuge, c'est ce regard en même temps bienveillant et distant sur soi-même. Il y a cette petite parole qui est jolie. L'amour, c'est se regarder comme on regarde une chose au loin. Parce que vous n'êtes qu'une chose parmi la multitude. Et celui qui regarde ainsi guérit son cœur. Depuis les collines, les oiseaux et les arbres disent « Petit frère aimé, nous t'avons trouvé ». Alors il veut se donner et honorer les choses pour qu'elles demeurent dans la lueur de l'amour. Et peu importe s'il sait ce qu'il sert, celui qui sert le mieux ne comprend pas toujours. Vous pouvez pratiquer les refuges, même si vous ne savez pas pourquoi. L'acte juste, c'est le respect des biens d'autrui, la décroissance. Mmh. Aujourd'hui, la décroissance, la simplicité, qu'est-ce que nous pouvons être ensemble pour essayer de nous stimuler les uns les autres à aller dans la décroissance, parce que les meilleurs ont 10 fois trop. Mmh. Au moins ne pas succomber à penser que c'est faux si on a peu. Au moins ça. Le refuge, c'est la confiance ici et maintenant. C'est soigner l'être, soigner la présence, cet amour inconditionnel pour notre inaccompli aussi. Encore une petite parole. J'ai eu mes rêves comme tout le monde, mais ils sont devenus du rien. Et je reste maintenant les pieds ancrés au sol, regardant le ciel de l'été. Je sens mes habits sur ma peau, le poids de mon corps dans mes chaussures, le bord de mon chapeau sur ma tête, l'air qui entre et sort de mes narines, et je décide de ne plus rêver. Quand je prends refuge, j'arrête le rêve. Et je m'ancre dans l'espace et dans le silence. La prise de refuge, elle peut se faire beaucoup avec la marche, avec la méditation marchée, mais il y a forcément la conscience de l'extérieur. Il y a déjà la conscience de l'extérieur quand j'arrive au bout de mon chemin. Dans la méditation marchée, nous sommes dans la nature et forcément que l'attention est attirée à l'extérieur. Donc la conscience est intérieure et extérieure. Je prends refuge. Et ça a un effet, c'est ça le but. Ça a un effet parce que ça calme les inquiétudes fondamentales du corps et de l'esprit. Le moi, par définition, il est inquiet. Parce qu'il est tellement vulnérable. Il est vulnérable physiquement. On ne boit plus pendant 3 jours, on est mort. On a froid un tout petit peu au-dessous de ce qu'il faut, on est mort. Il y a de quoi être inquiet. Il est inquiet le moi affectivement. Personne ne veut être seul. On a besoin les uns des autres. Est-ce que je suis aimée? C'est une quête terrible, parce que si personne ne m'aime, je meurs. Il est inquiet parce que il a tellement besoin de clarté mentale, il a tellement besoin de pouvoir employer ses pensées. Je me souviens, ma grand-maman, elle me disait, mais ce dont j'ai le plus peur, c'est de perdre la tête, tu vois. Tant pis si mon corps tombe malade, mais j'aimerais pas perdre la tête. Eh bien, devinez ce qui lui est arrivé. Ouais, eh ben, elle était triste à la fin. Et pourtant, nous allons perdre tout ça. Nous allons perdre notre corps, nous allons perdre nos proches et nous allons perdre notre capacité de penser. J'ai un ami qui est décédé il y a quelques années et puis je l'ai accompagné. Il est mort très rapidement, il avait un cancer du foie. Et c'était un accompagnement extrêmement beau. Parce que quand il a su qu'il était très malade, il m'a dit, alors qu'il n'avait jamais voulu parler, entendre parler de méditation, il m'a dit, maintenant, parle-moi de la conscience. Alors je lui ai parlé de la conscience, et puis il a travaillé. C'est quelqu'un qui faisait des maisons. Il a travaillé sa conscience d'une manière extrêmement efficace. Il avait mal, donc être là, c'était quelque chose qui était assez évident pour lui, être là avec la douleur, à l'état pur. Et puis le lâcher prise s'est fait progressivement. Et je me souviens par rapport à la pensée, je suis allée une fois le voir, et puis la pensée commençait à ne plus être claire. Tout d'un coup, ça partait. Il me parlait d'un nounours sur un tablard, et puis après ça revenait. Et quand ça revenait, waouh, il était effrayé, mais j'étais pas claire. Et puis je lui ai dit, ben tout est bien, t'es pas la pensée, Yves, tu es pas la pensée. Alors simplement, quand tu vois que ta pensée est claire, ah ben, ta pensée est claire, juste maintenant elle est claire. Et puis quand ta pensée ne devient pas claire, ah ben, que tu reviens, ah ben c'était une pensée pas claire. Tu regardes ça avec une complète objectivité et avec beaucoup de bienveillance. Ah, il avait tout compris, c'était génial, hein. Et ça l'a tellement soulagé, et il a fait son travail, pensée claire, pensée pas claire, pensée claire, pas claire. Je suis allée le voir juste avant qu'il meure. Il y avait sa femme qui était là, et puis l'infirmière vient, puis elle nous dit, vous voulez manger? Puis on dit, ouais, ben on veut bien manger. Et puis lui, il ne pouvait plus vraiment manger. Je lui demande, mais t'aimerais manger quelque chose? Puis ouais, il me dit oui. Alors on lui a amené, je vous le raconte parce que c'est tellement touchant, on lui a amené un tout petit bout de canapé au salami, un tout petit bout de vol au vent, et puis un tout petit, ces trucs chinois là. Bref, un autre truc. Et puis il pouvait presque pas mâcher. Donc je l'ai coupé tout tout fin et puis je lui ai donné ça et puis je sentais qu'il était vraiment dans le goût plus pur, on peut pas, hein. Il goûtait ça. Et puis il a goûté les trois, une fois, hein, seulement une fois. Puis après il nous a dit, c'est fou ce que je suis attachée au salami. Il faisait un travail de pleine conscience exceptionnel. Et il est mort en prenant ça avec lui. Donc nous pouvons prendre refuge aussi dans le silence, dans la présence et dans le silence. La présence et silence. Je vais finir avec une parole de Eckhart Tolle. En perdant contact avec son silence intérieur, c'est avec soi-même qu'on perd contact. En perdant contact avec soi-même, on se perd dans le monde. Le sentiment le plus intime de soi, de son essence, est inséparable du calme intérieur. C'est le je suis plus profond que le nom et la forme. C'est le je suis d'avant la naissance et d'après la mort. Je propose quelques minutes en silence.